La société des membres de la Légion d'honneur. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et François Test.
Donc je suis le général d'armée Hervé Gobiliard, en deuxième section, c'est-à-dire que je ne suis plus en responsabilité sous l'uniforme. Je suis rentré à Saint-Cyr en 1961. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans la troupe, comme tout officier, essentiellement dans les parachutistes, où j'ai commandé le 1er régiment de hussards parachutistes et la division parachutiste. Et comme tout officier ayant été reçu à l'école de guerre, j'ai fait des états-majors et j'ai été à l'état-major de l'armée de terre. Ensuite, j'ai été au centre des hautes études de la défense nationale et au centre des hautes études militaires. J'étais chef de cabinet militaire adjoint du ministre de la défense, sous-chef opération et logistique à l'état-major de l'armée de terre. Ensuite, je suis parti commander la division parachutiste et c'est dans ce cadre que je suis parti à Sarajevo commander les forces internationales de l'ONU à Sarajevo pendant la guerre de Bosnie. Ensuite, j'étais commandant des écoles de l'armée de terre, inspecteur de l'armée de terre et en deuxième section, c'est-à-dire en ce qu'on appelle pas en retraite, puisque un officier général n'est jamais en retraite, j'étais pendant 7 ans gouverneur des Invalides. Et après ce temps, j'ai estimé que la France m'ayant tout donné, il fallait que, à mon tour, je continue à la servir jusqu'à mes dernières forces. Et je me suis présenté comme administrateur d'abord à la Société des membres de la Légion d'honneur et j'ai été élu président en 2009 et j'occupe ce poste. Donc je suis dans ma 7e année de présidence de la Société. Voilà.
Pour aller à la rencontre de la Société des membres de la Légion d'honneur, auguste société d'entraide créée en 1921, il faut se rendre à l'hôtel des Invalides à Paris. Distincte de la grande chancellerie qui siège elle à l'hôtel de Salle et qui gère les demandes de décoration qui lui sont faites par les ministres, la SMLH est une société privée qui réunit plus de 55 000 personnes, toutes décorées de la Légion d'honneur. Ici, on les appelle les légionnaires. Sur les 3000 personnes décorées chaque année lors des promotions civiles du 1er janvier, de Pâques ou du 14 juillet, sans oublier les deux promotions réservées aux militaires, une moitié environ choisit d'entrer à la SMLH. Mais quelle est donc cette discrète société bientôt centenaire dont la devise « Honneur, patrie, solidarité » trône fièrement sur son drapeau ?
L'amour de la patrie, le service du pays, la solidarité, la solidarité à tous les niveaux.
Jean-Martin.
Oui, l'amour du pays, c'est le service de la France, la solidarité, le courage, etc. Tout ça, c'est des valeurs de la Légion d'honneur, on peut en mettre beaucoup plus. La SMLH, elle a 3 missions. La première, c'est de participer au prestige de l'ordre de la Légion d'honneur, hein. C'est-à-dire être présent dans les cérémonies patriotiques, monuments aux morts, etc. Partout où la célébration de la patrie est faite, hein. Et la Légion d'honneur se doit d'être présente. Elle est toujours là, elle est là avec son drapeau. Et dans le protocole qui est appliqué, le drapeau de la Légion d'honneur, c'est toujours le premier. La deuxième chose, et c'était l'origine de la fondation de la SMLH, c'est la solidarité entre les membres. Elle a été créée en 1921, donc peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, il y avait des légionnaires qui avaient été décorés et qui étaient dans des situations très difficiles. Et le grand chancelier de l'époque a donc décidé de créer cette société d'entraide. C'était une société d'entraide, que les plus aisés des membres puissent aider les moins favorisés. Et puis, la troisième mission, qui est très importante, c'est la transmission de la mémoire et des valeurs républicaines aux jeunes, en particulier aux jeunes. Et là, on fait beaucoup de choses avec les écoles, les lycées, les collèges.
Je m'appelle Francis Lott, je suis ancien diplomate, donc je regarde avec plaisir l'Esplanade des Invalides où j'ai commencé ma carrière en 1968. Et puis, j'ai donc travaillé d'abord 2 ans pour le général de Gaulle sur les affaires africaines. Puis ensuite, j'étais nommé sous-directeur du service du budget du Quai d'Orsay. Puis, j'ai fait un certain nombre de choses jusqu'à Moscou, où j'ai été pendant 3 ans, pendant la guerre froide. C'était encore la guerre froide, 71-74. Ensuite, j'ai été à Bruxelles pendant 5 ans à la représentation permanente. Et après ça, j'ai été secrétaire général d'Avas pendant presque 10 ans. J'ai fait une petite chose qui s'appelle Canal Plus avec André Rousselet, dont j'étais le secrétaire général. Et puis ensuite, je suis revenu au Quai d'Orsay. Et après avoir été directeur général du Quai d'Orsay, je suis parti comme ambassadeur en Afrique. En Côte d'Ivoire, j'ai eu le privilège de gérer 7 coups d'État. Il a fallu que j'héberge Bédier, que je l'exfiltre, puis que je protège Gbagbo et que je sauve la vie de Ouattara. Et ensuite, j'ai été nommé ambassadeur en Argentine, où j'ai passé les 4 dernières années de ma vie professionnelle. Et je me suis occupé localement, à l'île de Ré, je me suis occupé de la municipalité de Saint-Martin-de-Ré. Et j'ai aidé à faire en sorte qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était pour moi assez facile d'avoir accès à l'UNESCO, à l'ambassadeur français là-bas, à la secrétaire générale. Et donc j'ai aidé la municipalité de Saint-Martin à avoir ce classement. Ensuite, la Légion d'honneur locale m'a indiqué qu'il y avait un problème de président. Et comme les légionnaires qui me disaient ça me disaient « mais tu serais très bien notre président », j'ai accepté. Et je suis donc président de la Légion d'honneur depuis 2014 en Charente-Maritime. Et je préside donc la section qui comprend 680 membres. C'est une section importante. Et nous avons 6 comités répartis sur 12 départements, très très étendus. Ça va de la Vendée jusqu'à la Gironde. Et donc, c'est pas simple à gérer. Il faut faire des centaines de kilomètres pour aller de l'un à l'autre.
Actuellement, nous sommes 54 000, 72% de civils et le reste de militaires. 72% avec... vous savez que le président Sarkozy avait décidé la parité pour la Légion d'honneur. Eh bien, nous montons aussi. Actuellement, nous sommes entre 14 et 15% de femmes comme sociétaires des membres de la Légion d'honneur. Au conseil d'administration, il y a 7 femmes. J'espère que en mai prochain, il y en aura un petit peu plus. Les présidents de section, puisque l'organisation générale de la société, c'est dans chaque département, il y a une section, ou dans chaque arrondissement parisien, ainsi que un quadrillage à Marseille aussi. Et donc les présidents de section, actuellement, malheureusement, il n'y a que 8 présidentes de section femmes, et j'aimerais beaucoup qu'on arrive aussi à un chiffre plus élevé. Actuellement, vous avez 135 sections françaises et 72 sections à l'étranger. Ce qui fait, alors les sections sont divisées en comités, puisque il y a des sections excessivement importantes, les Yvelines, le Var, le 16e arrondissement, les Bouches-du-Rhône. Donc on a divisé en comités et vous avez 635 comités.
Peu de temps après votre arrivée, vous avez ouvert les statuts de la société. Qu'est-ce que vous vouliez changer? Qu'est-ce qui vous paraissait indispensable de changer?
Alors, c'est effectivement, lorsque j'ai pris la présidence de cette société, j'ai voulu un peu modifier l'image de la société. Et pour modifier l'image, il fallait modifier les statuts. Modifier les statuts avec 2 prismes. Le premier, c'est que un peu technique sur le plan financier, c'est pouvoir bénéficier du reçu fiscal pour ceux qui donnent des dons. Il fallait appliquer les nouvelles lois sur le mécénat et les associations, et donc faire en sorte que une partie de notre action ne soit pas orientée uniquement vers les membres. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que je voulais donner beaucoup plus de visibilité extérieure à la société. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, cette société n'était pas connue. C'est une association, bien sûr, de membres qui ont tous la Légion d'honneur. Mais au niveau national, comme au niveau international, elle n'était pas suffisamment connue. Et je me suis dit, pour la faire connaître, il faut l'ouvrir. Il faut faire la démonstration que ceux qui ont la Légion d'honneur ne sont pas immobiles et inactifs, mais continuent à servir leur pays ou leur pays respectif à l'extérieur de la France.
Véronique de Chantérac-Lamiel, j'ai 65 ans, j'ai un parcours qui est un parcours à la fois académique et de chef d'entreprise, puisque j'ai été tout d'abord professeur de droit, puis directeur d'établissement d'enseignement supérieur, puis directeur général du Palais des Congrès, avant décider d'arrêter cette carrière unique pour faire un certain nombre de choses pendant une période de retraite. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené à la société des membres de la Légion d'honneur ?
Ben, je crois, comme beaucoup de ceux qui sont autour de la table du conseil d'administration d'aujourd'hui, le hasard des amitiés. Et j'y suis rentrée pour ça en disant, je verrai comment je peux servir là-dedans. Et je dois dire que là, je suis sur mon dernier mandat, donc j'ai été réélue pour 3 ans en juin dernier. Ça veut dire que je suis là depuis 9 ans, je n'en reviens moi-même toujours pas. Hein. Quand je suis rentrée, je me suis dit, je rentre pour un mandat, quoi, 3 ans. Je ne me voyais pas aller tellement plus loin. Puis il se trouve que je suis rentrée au conseil la même génération, si je puis dire, que le général Gobillard, qu'il m'a demandé de l'aider sur un certain nombre de choses, et puis un jour sur l'entraide.
Donner un exemple, Francis Lott, de cette entraide vis-à-vis un exemple précis.
Ah, écoutez, j'ai déposé ce matin, avant que vous arriviez, un dossier d'une ancienne infirmière de l'armée française qui a débarqué en juin 44 à Omaha avec les troupes alliées et qui est actuellement dans une maison de retraite que nous avons en Charente-Maritime. Et cette maison de retraite, elle y est depuis un certain nombre d'années. Elle a pratiquement plus aucun moyen. Elle a besoin pour sa vie personnelle d'avoir un petit apport. Cet apport, j'ai demandé à ce que la SMLH puisse le lui donner dans les prochaines semaines. C'est un exemple, mais c'est un exemple que je pourrais multiplier sur un certain nombre de cas pour lesquels nous venons en aide à nos membres.
Peut-être pouvez-vous nous décrire votre rôle en tant que président de section ?
En tant que président de section, je suis le président de 6 comités. Et ces comités sont eux-mêmes dirigés par les présidents qui sont à La Rochelle, Rochefort, Royan, Sainte, Saint-Jean-d'Angély, Oléron. Et ces comités sont inégaux. Celui de La Rochelle est le plus important, il a presque 260 membres. Le plus petit est celui d'Oléron, qui en a une quarantaine. Et chacun de ces présidents organise la vie locale de son comité et organise la vie locale en faisant des participations aux cérémonies, participation à la solidarité qui est pour nous très importante. Donc on est proche de nos membres, on est auprès d'eux lorsqu'ils ont des problèmes de santé ou financiers et on est également un moyen de rayonnement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les valeurs qui ont fait qu'on a eu ces décorations soient manifeste dans la façon dont nous vivons dans la société. Je vais vous donner quelques exemples. Nous allons permettre aux demandeurs de naturalisation, les étrangers qui demandent leur naturalisation, de devenir français le mieux possible. Et nous sommes en train de monter un mécanisme de conférence qu'on va leur présenter. En Charente-Maritime, on a à peu près 150 à 200 demandeurs de naturalisation chaque année. On leur présentera un certain nombre de choses sur l'histoire de France, la vie politique en France, les institutions, l'armée, le droit des femmes, la justice, etc. Enfin, toutes ces conférences seront faites par nous, devant eux, et ça leur permettra de devenir français, d'être naturalisé plus facilement. La préfecture leur donnera plus aisément leur naturalisation de français, puisqu'ils auront suivi ces conférences. Donc on est en train de monter ça. Et donc l'État est demandeur de notre action, d'autant plus demandeur que ça ne lui coûte rien. C'est nous qui prenons en charge tous les frais de cette opération.
Alors, mon nom est Lucien Gibert. Je suis chef d'entreprise qui a eu différentes fonctions dans la ville. J'ai été notamment longtemps membre de la Chambre de commerce, puis j'ai été porté à la présidence du Palais des Congrès de Paris pendant 6 ans. Ensuite, j'ai également été administrateur du Grand Palais des Champs-Élysées, et je suis rentré un jour, par le plus grand des hasards, après avoir été décoré de la Légion d'honneur, à la Société des membres de la Légion d'honneur. Et j'ai été élu président du patrimoine, ce qui consistait à mettre en œuvre tous les dons et les legs que nous avions reçus, notamment les dons et les legs immobiliers, de manière à les rendre plus liquides, puisque nous n'avons pas vocation à la Société des membres de la Légion d'honneur de garder des biens immobiliers. Il faut les mettre en vente. Donc j'ai hérité de beaucoup de dossiers, puisqu'il y a des dossiers qui dataient de 1923, 24, des choses qui n'étaient pas réglées. Et on a lâchement profité de mon métier d'administrateur de biens en se disant bah celui-là il saura faire. J'ai eu des années où j'ai amené jusqu'à 2 millions d'euros à la trésorerie. L'année dernière, c'était autour d'un million d'euros, et cette année, ce sera autour de 500-600 000, je pense, si toutefois les biens qui sont en vente se réalisent. Là, je vous parle des biens immobiliers. Pour les années précédentes, il y avait également un petit peu d'argent, parce qu'on est quelquefois aussi bénéficiaire d'assurance vie.
Monsieur Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
On peut peut-être revenir avec vous, Véronique de Chanterac, sur la remise donc, de votre Légion d'honneur. Mmh. On ne sait jamais pourquoi on la reçoit, c'est bien ça, mais vous avez peut-être une idée.
Écoutez, j'ai eu une idée parce que j'ai été chevalier, j'ai été faite chevalier de la Légion d'honneur à 46 ans. C'est Michel Barnier, qui était ministre des Affaires européennes, qui l'a demandé pour moi. Il est venu me la remettre. Et donc j'avais une idée précise. Très simplement, il s'agissait en l'occurrence de saluer toute l'action que j'avais menée pour le développement des études, des flux d'étudiants et des échanges académiques en matière de recherche également, à partir des deux grandes écoles sur lesquelles j'ai travaillé, à savoir HEC puis l'ESCP, tout autour de l'Europe et plus largement du monde. Donc c'était vraiment cet aspect-là, le développement du rayonnement de l'enseignement français autour du monde qui a été salué. Et puis ensuite, mon grade d'officier de la Légion d'honneur correspondait également à quelque chose de relativement important. C'est Jean-Louis Borloo qui me l'a remise. C'est lui qui l'avait demandé pour moi. C'est lui qui me l'a remise et j'en étais très fière. Et puis, j'ai également les PAMS académiques. Et ça, je sais pourquoi, puisque toute ma carrière a été là-dedans. Et le dernier, j'étais officier des PAMS académiques au bout de 5 ans de présidence du conseil d'orientation du CNED, puisque c'était une de mes activités aussi par ailleurs. Et là, c'est le recteur du CNED qui avait demandé, et c'est le ministre de l'Éducation nationale. Là, ça saluait quoi? Ça saluait un bénévolat au service de l'Éducation nationale. Voilà. Donc je peux dire pourquoi à chaque fois j'ai eu ce sentiment-là. Je peux dire que je ne les ai jamais demandé, ça, je le redis. J'en étais très fière et j'en étais très émue et je sais que c'était également une très très grande fierté pour mon père, donc ça, c'était bien.
Monsieur Christopher Norman, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
Un légionnaire ne rentre pas dans une société normale, il rentre dans un ordre. Il fait partie d'un ordre.
Général Gobiliard.
Je ne fais pas partie de la Légion d'honneur. Je suis de l'ordre, au verbe être, je suis de l'ordre de la Légion d'honneur. Donc, cette décoration, voulue par Bonaparte, est une décoration qui reconnaît des services éminents rendus au pays. Et ces services sont expliqués, démontrés dans un rapport présenté par les ministres, dans un mémoire de proposition, et c'est ce mémoire de proposition qui est étudié par le Conseil de l'Ordre et qui décide que, en fonction du contingent dont je disais tout à l'heure, qui décide d'attribuer la Légion d'honneur à telle ou telle personne française ou étrangère. Dans le texte de Napoléon Bonaparte, il y avait sa récompense à la fois les princes et les tambours pour bien montrer que le spectre des possibles futurs membres de la société est... Tous les citoyens peuvent être membres de, peuvent recevoir la Légion d'honneur. Vous parlez des mérites éminents, alors que l'ordre national du mérite créé par le général de Gaulle c'est des mérites reconnus. C'est un peu, vous voyez, les subtilités de la langue française. Mérite éminent, et normalement, dans le texte prévoit, il faut avoir 20 ans d'activité de mérite éminent. Pour être reçu dans l'ordre de la Légion d'honneur, pour recevoir cette superbe décoration, il faut, je disais, 20 ans de mérite éminent, mais il faut surtout, dans son secteur, que vous soyez un fonctionnaire de l'État, un membre de l'éducation nationale, un médecin, une infirmière, un artisan, un sportif, quelqu'un du monde culturel, que votre action a été une action qui non seulement a rayonné, mais aussi que vous êtes investi et que par votre investissement, vous avez bien servi la France. J'en connais un qui est devenu président de section et qui a travaillé comme ramoneur à 15 ans et qui est maintenant est commandeur de la Légion d'honneur. Parce qu'il a servi son pays d'une façon merveilleuse, à la fois dans son métier et dans des tas d'autres associations. Le décret prévoit 125 000 membres de la Légion d'honneur, alors que avant le général de Gaulle, il y en avait beaucoup plus. Et le général de Gaulle a voulu limiter le nombre de légionnaires et a créé l'Ordre national du mérite. Et actuellement, c'est donc c'est 125 000 légionnaires, mais nous ne sommes que 92 500. Donc il y a encore un delta à combler dans les années qui viennent. Et sur ces 92 500, il y a 55 000 qui, un peu moins, qui ont accepté de faire partie de la société des membres de la Légion d'honneur.
Comment vous décririez la SMLH, en fait, à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler?
Qu'est-ce qui la caractérise? Pudeur, discrétion, quelquefois maladresse dans la façon de mettre en avant ce qu'elle fait. Donc, c'est discrétion et maladresse. Et moi, je dirais générosité et finalement un grand enthousiasme à l'intérieur des gens qui sont là.
Et quand vous parlez de maladresse, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à une...
Maladresse à communiquer. Cette société n'a jamais été très, très habile à dire ce qui elle était, à dire ce qu'elle faisait, à dire pourquoi c'était important qu'elle continue à exister. C'est aussi une structure qui souffre d'un positionnement qui est très mal compris. Entre la grande chancellerie, dont le rôle est très clair sur le plan des institutions, de la défense, de l'attribution, de la défense, de la décoration de son rayonnement, etc., et cette société qui n'a, des membres de la Légion d'honneur, qui n'a pour seul but que de faire rayonner l'action dans la société civile. Il y a une chose qui est très importante, c'est que cette société n'est pas une société parisienne. Hein. Alors le siège est à Paris. Il y a un certain nombre d'administrateurs qui sont parisiens pour des raisons simplement de facilité. On voit à quel point cette société est une société qui quadrille le territoire complètement et avec les identités qui sont celles des légionnaires du territoire.
Est-ce que vous pouvez nous parler des membres qui composent justement cette section donc de Charente-Maritime? Est-ce que la sociologie est différente de celle qu'on peut retrouver à Paris? Est-ce que les activités sont différentes?
Il y a un nombre de militaires un peu plus important dans notre département. On est à peu près 45 ou 47% d'anciens militaires. Et ça a plein d'avantages. Non pas que je veuille dire que les civils sont pas bons, c'est pas ça, mais c'est que les militaires prennent leur retraite plus tôt que les civils, et donc on a des membres de la Légion d'honneur, de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont plus jeunes, donc plus actifs, plus présents, plus disponibles que ne le sont les civils, et ça joue son rôle, effectivement.
Est-ce qu'il y a des activités auxquelles vous tenez particulièrement à participer, en dehors des activités du rôle qui vous incombe en tant que président de section? Est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il y a des choses comme ça auxquelles vous tenez à participer?
Je remets chaque année un prix à l'exposition de peinture de La Rochelle. Donc c'est quelque chose que nous faisons chaque année, que je fais chaque année. J'ai remis aussi un prix dans une autre exposition de peinture à Jonzac il y a quelques semaines. On est présent aussi dans le domaine civil et artistique sans aucun problème. D'autant que la Légion d'honneur, en créant la Légion d'honneur, Bonaparte a voulu la première remise de Légion d'honneur, qui a eu lieu ici même, le 15 juillet 1804, il a remis la Légion d'honneur à David, puis à quelques autres peintres qui étaient là. Il n'y a pas eu simplement des militaires décorés. Il a tenu à ce que les mérites éminents des artistes, des savants, des littérateurs soient reconnus, et nous sommes exactement dans cette ligne-là.
Est-ce qu'il y a des activités qui vous réunissent tous, les membres de la société? Je crois qu'il y a la remise d'un prix littéraire, me semble-t-il.
Alors, au niveau national, il y a effectivement la remise d'un prix littéraire qui s'appelle le prix Honneur et Patrie. Ce prix se réunit tous les ans. Il choisit un lauréat qui décline bien dans son œuvre Honneur et Patrie. L'année dernière, le prix a été attribué à Philippe de Villiers pour son livre sur le roman de Jeanne d'Arc. L'année d'avant, c'était François Sureau. Donc vous voyez, c'est très éclectique, mais ça s'est toujours centré sur Honneur et Patrie.
Je m'appelle Henri Veil, je suis journaliste, je suis né à Bordeaux il y a 60 ans.
J'ai accompli une carrière à la télévision qui m'a permis de réaliser mon rêve d'enfant. Je souhaitais, lorsque j'étais adolescent en Gironde, suivre les pas d'Albert Londres. Et la télévision et les différentes télévisions dans lesquelles j'ai travaillé m'ont permis de réaliser ce rêve d'adolescent. J'ai été décoré de la Légion d'honneur en 2002 et j'ai adhéré immédiatement à la Société des membres de la Légion d'honneur. Et j'habitais le 19e arrondissement et la section ne fonctionnait plus. J'ai simplement téléphoné au siège de la SMLH, aux Invalides. Et là, on m'a demandé tout de go si je ne voulais pas reprendre cette section de façon à la faire revivre. Et voilà comment est née l'histoire.
Oui, donc vous êtes aujourd'hui, Henri Veil, le président de la section du 19e. Quel est votre rôle ?
Je suis président d'une association. Donc la section du 19e arrondissement, c'est 123 personnes, 70 hommes et 53 femmes. C'est une petite section au niveau de Paris. La moyenne d'âge est élevée, 71 ans. Alors dans le 19e arrondissement, c'est pas beaucoup parce que la moyenne d'âge nationale est un peu plus élevée. Elle frôle les 75 ans. Parmi les 123 membres, il y a également 14 conjointes de légionnaires qui sont décédés. Donc nous offrons la possibilité au sein de la SMLH aux conjointes, pour l'instant, de rester membres de l'association. Et souvent, ces personnes sont évidemment âgées et ces personnes ont besoin ou aiment participer avec nous à certaines activités. Donc ça nécessite simplement, leur mobilité n'étant plus avérée parce qu'elles sont âgées ou qu'elles sont atteintes de certains maux, d'aller les chercher, de prendre du temps, de trouver des membres de l'association disponibles pour faire ce travail. Et je crois, vous savez, c'est simplement un acte bénin de solidarité, mais c'est la nécessité qui se fait jour au fil de son existence d'aller vers les autres, de tendre la main. Être président, c'est aussi participer aux cérémonies classiques qui se déroulent le 8 mai, le 11 novembre, participer à la journée de la résistance, à la journée de la déportation. C'est aussi être un animateur, c'est organiser des conférences pour ses membres, c'est organiser des visites. Et puis, c'est être présent lorsque l'un des sociétaires disparaît, c'est-à-dire lorsque nous sommes prévenus à temps, participer aux obsèques, être une dernière fois aux côtés de celui qui nous a accompagnés pendant un certain nombre d'années.
Ces valeurs communes dont vous parliez, qui vous réunissent, donc, est-ce qu'il y a une orientation politique ? Est-ce que ça fait partie de cette...
Non, Dieu merci, il y a autour de la table sans doute des gens qui ont des opinions politiques, puisque vous savez que tous les Français ont des opinions politiques, c'est systématique.
Lucien Gibert.
Et ils ont raison d'ailleurs, ils sont citoyens. Je n'ai jamais vu autour de cette table depuis 8 ans une discussion politique. Chacun, si vous voulez, laisse, je suppose, ses idées politiques à la porte de la salle de réunion. Bon, pour vous dire un clin d'œil, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Europe Écologie Les Verts. Je suis pas sûr qu'il y ait des crypto-communistes. Pour le reste, il y a tout. Mais il y a surtout, c'est ça qui est bien, des citoyens engagés, qui pensent que le bien ne vient pas forcément de la gauche, le bien ne vient pas forcément de la droite, il vient de gens de bonne volonté, de bonne foi, qui ont envie de travailler ensemble et de faire quelque chose un peu pour les autres. Et c'est cette espèce de chaîne de multiples associations qui essayent d'œuvrer pour les autres, qui permettront de créer une société qui sera sans doute une société plus solidaire dans un monde un peu difficile. Pourquoi le monde est difficile ? Parce que la communication des gens, elle est beaucoup moins forte que dans le temps. Dans le temps, il y avait une vraie communication des familles, une vraie communication des gens. Là, les gens ont moins le temps de parler, ils s'occupent beaucoup d'ordinateurs, d'informatique, ils passent leur journée à liker, à regarder ce qui se passe, et il n'y a pas vraiment de chaleur qui se dégage.
Donc je m'appelle Martin, Jean Martin, comme tout le monde. Je suis né dans la Creuse, un petit village qui s'appelle Moutier-d'Ahun, en 1944, il y a déjà fort longtemps. Et bon, j'ai fait mes études secondaires au lycée Pierre Bourdon de Guéret, puis ensuite je suis parti en classe préparatoire au lycée Carnot à Paris, et j'ai intégré l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, l'ESSEC, où j'ai fait trois années d'études, et je suis entré dans une société qui s'appelle Unilever, où j'ai fait 41 ans. C'est un peu comme l'armée, mais la différence c'est que c'est une grande société multinationale, dans laquelle j'ai changé de job très très souvent, et de pays aussi. Donc, alors j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1998, et j'ai été promu officier en 2008. Alors dès 1998, j'étais encore aux Pays-Bas à cette époque-là, j'ai rejoint la section de la Creuse, et puis en 2000... Attendez que je ne dis pas de bêtises, ça doit être 2011... 2011 ou 2012, je suis devenu président de la section de la Creuse. Et en 2013, j'ai été élu au conseil d'administration de la société au niveau national. C'est la question que nous posent toujours les élèves de CM1 et CM2 dans les écoles, quand on va les voir, c'est « Comment vous avez fait, vous, pour avoir la Légion d'honneur ?» Alors, je leur réponds toujours qu'on ne fait rien pour avoir la Légion d'honneur, on ne la demande pas, elle arrive. Voilà. Et on peut faire des hypothèses sur les raisons pour lesquelles on nous a attribué la Légion d'honneur. Et en ce qui me concerne, je suis à peu près certain, c'est mes activités économiques, en particulier dans les nombreux pays dans lesquels j'ai vécu, au service du commerce extérieur de la France. Parce que quand on est dans un pays étranger, j'étais conseiller du commerce extérieur aussi, vous savez, c'est une institution, un job complètement bénévole qui vous est attribué par le Premier ministre, et je l'ai été depuis fort longtemps. Et donc là, on a un rôle à jouer en tant que chef d'entreprise dans un pays étranger pour faciliter, si vous voulez, le commerce extérieur de la France. En tout bien, tout honneur, c'est simplement conseiller les autorités. Sur ce qui se passe dans le pays, ça revient directement à Paris, hein. Parler aux investisseurs du pays qui seraient intéressés par la France, c'est-à-dire promouvoir l'attractivité de la France.
Donc vous avez été amené, Jean-Martin, à voyager beaucoup à l'étranger, voire à vivre à l'étranger dans le cadre de votre travail. Ce réseau de la société des membres de la Légion d'honneur à l'étranger, du coup, est-ce que vous l'avez côtoyé ? Est-ce que ça vous a servi, justement, dans le cadre de votre travail ?
Je l'ai côtoyé, bien sûr. Ça m'a pas été utile dans mon travail, mais c'est utile à la France. C'est un autre réseau. Si vous voulez, il y a le réseau des conseillers du commerce extérieur qui est très important. Très important. Alors, la SMLH aussi, c'est un autre réseau, hein. Il se recouvre de temps en temps. Puisque, comme vous le savez, le gouvernement, décide très régulièrement d'honorer des amis de la France. Et si vous voulez, ça consolide les relations de la France avec ces pays. Hein, donc j'ai fait nommer, par exemple, aux Pays-Bas le patron, enfin, du MEDEF local, qui était déjà francophile, francophone, etc. Mais c'est pour dire, on reconnaît, hein, le rôle que vous avez joué pour améliorer les relations franco-néerlandaises, etc., etc. Donc c'est important, ça fait partie des réseaux, quoi. Et dans ce domaine-là, on travaille complètement avec l'ambassade.
Actuellement, nous sommes dans 54 pays. Et ces sections sont extraordinairement vivantes.
Général Gobillard.
La quasi-totalité des étrangers qui reçoivent la Légion d'honneur rentrent dans la société des membres de la Légion d'honneur.
Comment vous expliquez justement la popularité de la Légion d'honneur à l'étranger ?
La Légion d'honneur, créée par l'empereur, a complètement subjugué, si vous voulez, l'ensemble du monde. Et je peux vous dire que les étrangers qui reçoivent la Légion d'honneur sont absolument avec une émotion extraordinaire et sont très très fiers de la porter, parce que c'est Napoléon, mais aussi parce que c'est une décoration française. Et moi qui me déplace beaucoup à l'étranger, je peux vous dire que la France est quand même reconnue, et toujours, contrairement à ce qu'on peut dire quelquefois, est considéré comme un grand pays à la fois de culture, d'intelligence, patrimoine historique, et puis de droits de l'homme, qui montre de temps en temps le vrai chemin.
Là, par exemple, la SMLH a ouvert une section en Arabie Saoudite. Le général Gobillard me disait qu'il y a une section qui va s'ouvrir en Russie. C'est sûr que dans le contexte à la fois politique et économique, ça a un sens.
Tout ce que la SMLH se fait à l'étranger passe obligatoirement par l'ambassade de France. L'ambassade de France locale. Après, il faut choisir le président qu'on va proposer comme président de la section locale. Et alors là, il faut faire très attention. J'ai travaillé en Afrique pendant 3 ans. Il faut savoir où on met les pieds. Et nous, on le sait, si vous voulez, les gens qui sont dans les affaires, on le sait. Mais il faut que l'ambassadeur soit vraiment complètement satisfait de tout ça. Donc on le fait. Et évidemment, c'est important. C'est très important. Et ça valorise, si vous voulez, la Légion d'honneur auprès de ces gens-là, auprès de ces pays. Hein, et ça renforce l'attachement que peuvent avoir, ou l'attention, l'attachement c'est peut-être exagéré, mais au moins l'attention que ces gens-là peuvent porter à la France. Hein. Et je vous dis, ça fait partie de ce qu'on peut faire pour aider la France.
Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait sociologique, un peu, de cette section du 19e arrondissement, en Réveil?
Oui, c'est des gens divers, c'est des gens aux professions assez éparses. Nous avons quelques hauts fonctionnaires, conseillers d'État, cour des comptes, magistrats. Nous avons 2 prêtres, nous avons 2 écrivains, nous avons un cinéaste, nous avons des infirmières, nous avons des médecins. Nous avons également des professeurs d'université, nous avons un sénateur. Donc vous voyez, c'est un profil, une typologie qui n'est pas classique du tout. C'est un peu la représentation de ce qu'est l'arrondissement et de ce qu'est la France d'ailleurs. Parce que la Légion d'honneur récompense non pas des professions ciblées, mais des gens dont les mérites sont éminents.
Parmi les gens qu'on a rencontrés donc pour cette émission, mais après ils ont été aussi sélectionnés par le général Gobillard, on a quand même le sentiment d'un entre-soi, on va dire. On a beaucoup des gens qui sont passés par l'ENA, par exemple, qui ont eu des postes importants dans des grandes sociétés. C'est le sentiment que vous avez également?
Non, parce que moi je suis un contre-exemple, je suis autodidacte, oui, je n'ai pas le bac.
Vous êtes le contre-exemple.
Mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Dans ces représentations qu'on a des titulaires de la Légion d'honneur, on se dit on n'y accédera jamais parce que c'est réservé à une élite. Pas du tout. Nous sommes trop porteurs de clichés. Sur 123 membres de la société des membres de la Légion d'honneur du 19e, il doit y avoir 1 ou 2 énarques. Donc, pas du tout. Et la Légion d'honneur, vous savez, c'est souvent, et on le voit dans les sections, des histoires formidables. Lorsque je propose des conférences, il suffit de regarder dans la section qui sont les sociétaires, et les profils sont tellement divers que je peux leur demander de venir faire une conférence. Sur le même registre, le trésorier de la section, en 1944, avait 11 ans et il était déporté à Bergen-Belsen avec sa mère. Très récemment, et pour changer totalement de registre, le directeur général de l'Union internationale des chemins de fer est sociétaire de la section et il a fait une conférence sur la géopolitique du train. C'est extrêmement intéressant.
Ce qui singularise la société des membres de la Légion d'honneur, c'est son désintéressement absolu et son grand universalisme. C'est-à-dire que nous, on est là pour porter les valeurs, des vraies valeurs, qui sont des valeurs non pas nationalistes, parce que c'est nauséabond de parler de ça, mais ces valeurs à la fois d'entraide, de fraternité, d'attention à une société qui est une société qui, de par les forces du destin, depuis, je dirais, quelques années, a des membres un peu fragilisés. Et les sections, par leur président, puisqu'ils sont très implantés sur un petit territoire, peuvent aider à quelquefois soulager quelques misères.
Comment vous les décririez, ces membres ?
Ben justement, la richesse de la Légion d'honneur, c'est que d'abord, il y a eu un truc très important, c'est la parité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est aperçu que la femme, c'était un homme aussi. Donc, qu'il fallait lui donner aussi la Légion d'honneur. Et ça a été bien. Il y a un ensemble de gens méritants. Vous le voyez bien, parce que dès qu'il y a une action importante qui est faite par quelqu'un après un accident, après un événement grave, en général, les gens sont décorés. J'en veux pour preuve les gens qui, dans le Thalys, ont sauvé un certain nombre de passagers qui étaient menacés. Ils ont fait ce qu'il fallait au péril de leur intégrité corporelle, peut-être de leur vie d'ailleurs. Et ils ont été décorés immédiatement. Ce qui veut dire que la grande chancellerie et les pouvoirs publics sont très attentifs à récompenser de cet ordre, qui représente encore quelque chose. Parce qu'au fond, quand les gens ont 20 ans, ils disent la Légion d'honneur, on s'en fout, c'est pas grand-chose. Puis quand ils vieillissent un peu, je vous parle pour moi, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, je me disais, bon, la Légion d'honneur, c'est très joli, c'est très beau, c'est intéressant. Je regardais toujours, d'ailleurs, d'un œil intéressé, un monsieur d'un certain âge, quand il avait ce ruban rouge ou... Sur son revers, c'était plutôt élégant et joli. Et puis quand on vieillit un peu, on se dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de l'avoir. Et je dois dire que quand j'ai été décoré, j'ai commencé à porter ça avec beaucoup de fierté. Mais je dois vous dire qu'on reçoit beaucoup, avec beaucoup de plaisir. Vous savez, c'est un peu comme à l'école, quand on avait un tableau d'honneur ou un truc comme ça. Finalement, la Légion d'honneur, c'est le tableau d'honneur des gens plus âgés.
Destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Mais voici la victoire de ce silence atroce.
Mesdames, messieurs, c'est un moment exceptionnel que nous allons vivre aujourd'hui, à l'occasion du 11 novembre 2012. Exceptionnel, non pas parce que c'est la première fois que je préside cette cérémonie, mais parce qu'il y a devant moi 5 éminentes personnalités, 4 grandes figures de la résistance, pour ne pas dire de l'histoire, et un président d'une grande organisation qui a veillé à donner à l'humanité toute sa dignité.
Qu'est-ce qui singularise à vos yeux, Jean-Martin, de la SMLH ? Je ne sais pas si vous faites partie d'autres cercles ou d'autres clubs, mais qu'est-ce qui la rend singulière ?
Ah, écoutez, je dirais que c'est une question intéressante à laquelle je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais ce qui la rend évidemment extrêmement singulière, c'est la Légion d'honneur. C'est quand même pas n'importe quoi. Hein, la Légion d'honneur, vous savez, c'est le premier ordre national, et c'est une décoration dont chacun d'entre nous est très fier, hein, et nos familles, etc. Donc c'est vraiment la spécificité de la SMLH. C'est cette décoration que nous portons, que nous devons promouvoir, que nous devons défendre, que nous devons honorer, hein, et qui nous donne, le général Gobillard lui dit très souvent, la Légion d'honneur, ça donne aucun droit. Rien du tout. Ça vous donne droit à rien du tout. Hein? Par contre, ça vous donne des devoirs. Quand on arrive dans une école, pas en Creuse, parce que on connaît tout le monde, mais je peux m'imaginer dans certaines écoles, la réponse, ça va être, je vais être un petit peu vulgaire, mais qu'est-ce que c'est que ces vieux cons? Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? Et si à la fin de la réunion, on a eu une conversation intéressante avec ces gens, et avec ces enfants, et ben là, on a fait quelque chose de bien. Hein? On a démythifié la décoration, on a fait tomber un certain nombre de préjugés, on a répondu à leurs questions qui sont parfois difficiles, parfois agressives. Hein, et voilà, et ils se rendent compte que on en parle, c'est tout. Hein. Donc, c'est ça. Et je crois que la spécificité que nous voulons vraiment retenir maintenant, c'est au cœur de la nation. Hein. C'est de dire, l'ASMLH, elle se positionne au cœur de la nation. Nous représentons à chaque instant la Légion d'honneur. Évidemment, c'est sous, il y a la Grande Chancellerie. Hein, vous avez compris qu'on est différent de la Grande Chancellerie. La Grande Chancellerie, elle gère l'ordre de la Légion d'honneur. Nous, on est chargé, en particulier, de sa promotion, de son prestige, etc. Et en fait, la Grande Chancellerie qui décide, hein, vous savez, le Conseil de l'ordre qui décide des nominations. Il n'a pas les moyens que nous avons d'irriguer tout le territoire. La Grande Chancellerie, c'est à l'hôtel de Salme, et puis c'est tout. Hein. C'est-à-dire que nous avons ces sections dans tous les départements, dans tous les territoires d'outre-mer et à l'étranger. Hein, donc on a, si vous voulez, on est, comme on dit souvent, le bras armé de la Grande Chancellerie. Voilà, voilà, voilà.
C'était la Société des membres de la Légion d'honneur. Avec le général Gobiliard, Jean Martin, Henri Veil, Francis Lott, Lucien Gibert et Véronique de Chanterac. Merci à Patricia Beauvais et à Philippe Chartier. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. Un documentaire de François Test et Christelle Le Polotech pour Sur les docks.